La Voix des songes. Samuel Cohen Salmon.
Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans La Voix des songes. En ce début d'année 2019, je vous adresse mes meilleurs vœux et je me permets de citer Saint-Exupéry en vous souhaitant de faire de votre vie un rêve et d'un rêve une réalité. Cependant, ce n'est pas parce qu'une nouvelle année commence que l'on va abandonner ce qui a été laissé sur l'ouvrage à la fin de la précédente. Nous allons donc poursuivre et finir de nous intéresser à la place des rêves dans la culture ancestrale des aborigènes d'Australie. Lors de la précédente émission, nous avions introduit des notions de base afin de mieux saisir cette culture si lointaine. Je vous invite à réécouter cette émission sur radiofmplus.org, à la rubrique La Voix des songes, ou directement sur mon site analysederêve.com. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser plus en détail à la notion de temps du rêve et à la figure du serpent arc-en-ciel qui lui est associée, ainsi qu'à l'importance des rêves dans le rôle de guérisseur des chamans aborigènes. Commençons par le temps du rêve, évocation poétique, qui désigne un concept typiquement aborigène de temps hors du temps, durant lequel le monde était peuplé d'êtres primordiaux aux proportions et qualités surnaturelles. Ces figures, le plus souvent des animaux anthropomorphes, de la taille d'une montagne, ne doivent pas être confondus avec des divinités. Ce sont tout simplement des êtres vivants, ancêtres de tous les êtres vivants actuels, qui ont façonné la terre des origines. Les mythes liés à ces êtres du temps du rêve sont d'une importance vitale pour les aborigènes, car ils sont le reflet de la topologie de l'Australie, comme nous l'avons montré lors de la précédente émission. La transmission orale de ces mythes permet donc à ces peuples de chasseurs-cueilleurs de se repérer facilement lors de leur migration saisonnière, parfois très longue, notamment dans les zones désertiques, où il est crucial de retrouver avec certitude les rares points d'eau. Ces mythes fondateurs sont là pour les aiguiller. Si cette ère mythique est une pierre d'angle de la métaphysique des aborigènes d'Australie, le terme de temps du rêve est quant à lui mentionné pour la première fois en 1899 seulement par un ethnographe australien. Plus d'un siècle après, les linguistes modernes reconnaissent que cette appellation poétique est en fait le fruit d'une erreur de traduction due à une mauvaise connaissance des langues aborigènes à l'époque. J'aurais aimé pouvoir vous épargner l'éclaircissement étymologique qui va suivre, mais je n'ai pas pu résister à la saveur de cet exotisme. L'erreur de traduction initiale est liée à la confusion entre Alt-Jira, qui a été traduit par « temps du rêve », mais dont l'étymologie réelle est inconnue et qui est traduit de nos jours par l'incréé, le non-créé. Et donc ce terme Aljira a été confondu avec Adjirerama, à la sonorité apparente. Cependant, ces deux termes n'ont rien à voir. Aljira signifie l'incréé, alors que Adjirerama peut être traduit par rêver ou voir Dieu. C'est là le seul intérêt pour nous de faire appel à l'étymologie. Ainsi, nous nous rendons compte que chez les aborigènes, il existe une corrélation entre rêver et voir Dieu, regroupés sous le même vocable. Ce lien entre rêver et accéder au monde des dieux se retrouve dans toutes les cultures ancestrales de par le monde. L'universalité de ce rapprochement peut s'expliquer soit par une pratique commune, qui s'est diffusée à la surface du globe au gré des migrations humaines, ou bien par l'émergence fortuite de cette pratique aux quatre coins de la planète, telle une évolution indépendante et convergente des pratiques religieuses de différents groupes humains. En tout cas, ce lien entre rêver et visiter les dieux existe chez les aborigènes, tout comme il existait déjà dans les cultures mésopotamiennes et égyptiennes qui se sont diffusées en Europe. Et la pratique de l'incubation est également connue des aborigènes, comme nous le verrons plus tard. Pour en revenir à ce fameux temps du rêve, invention d'universitaire de culture européenne, ce terme est aujourd'hui rejeté par la nouvelle génération d'universitaires qui lui préfèrent le terme d'incréé ou de non-créé. Ainsi, le temps du rêve, on va continuer à l'appeler de la sorte par facilité, est un temps mythique au cours duquel le monde a été façonné, et en même temps, c'est un monde métaphysique qui a toujours existé et qui existera toujours, car il n'a jamais été créé. Pour rappel, nous avons déjà évoqué, dans la première émission, un mythe qui rend compte, avec une exactitude étonnante, de la topologie de la végétation singulière, de certains lieux marquants du riche paysage australien. En voici un autre exemple. Le parc national de Kakadu est dominé par un chapelet rectiligne de vieux volcans, ce qui en fait un point de repère à des kilomètres à la ronde pour les populations. Comme tous les sites marquants du paysage australien, il est sacré, donc conçu à l'époque du temps du rêve. C'est Ginga, le nom d'un homme crocodile gigantesque qui est mort à cet endroit, à la suite de nombreuses blessures d'où coulait son sang. Il est assez facile d'imaginer une forme crocodilienne à cette vieille chaîne volcanique allongée, mais encore faut-il savoir que cette chaîne de montagnes, aujourd'hui érodée, était à l'origine des volcans actifs. Le mythe l'assure en décrivant des blessures sanguinolentes de Ginga, telles des éruptions volcaniques. Or, les dernières éruptions volcaniques remontent à des milliers d'années. Il fallait donc que les créateurs de ce mythe soient les témoins de cette époque. Preuve une nouvelle fois que les mythes sont des récits qui disent la vérité, une vérité symbolique, comme dans les rêves, et preuve une nouvelle fois que les mythes aborigènes sont les témoins d'une mémoire millénaire dont la transmission orale les condamne à disparaître sous la pression des cultures exogènes. Poursuivons en nous intéressant désormais à une figure totémique centrale des aborigènes d'Australie, le célèbre serpent arc-en-ciel. Le serpent arc-en-ciel est une divinité. Souvent décrit comme un dieu créateur, il est la figure la plus répandue dans la culture aborigène. Il assume le plus souvent une forme de serpent, ou pour le moins reptilienne, en lien avec la forme caractéristique des arc-en-ciel. En réalité, ce sont les arc-en-ciel, bien plus que les serpents et autres reptiles, qui ont une importance vitale dans la vie quotidienne des aborigènes. Sur un territoire immense, principalement aride voire désertique, l'eau est une denrée rare. Et comme la nature nous l'a enseigné, les arcs-en-ciel sont directement liés à la pluie et peuvent être observés depuis de très longues distances. Donc les arcs-en-ciel signalent la présence d'eau à des kilomètres à la ronde. Si le lien entre arc-en-ciel et serpent repose en partie sur une analogie de forme, ce lien s'explique également par un rapport naturel très concret. Après un épisode de pluie, dans une zone désertique, les aborigènes qui arrivent sur les lieux en ayant suivi le fanal arc-en-ciel vont trouver de l'eau accumulée dans des trous, caractéristiques du désert australien. Or, dans cet environnement hostile, ces trous d'eau jamais asséchés sont le lieu de vie, notamment de serpents, dont la morsure est très souvent mortelle. Le serpent arc-en-ciel est donc une divinité qui allie à la fois les effets bienfaiteurs de l'eau et le risque mortel du serpent. Dispensateur de la vie et de la mort, le serpent arc-en-ciel est une divinité singulière qui occupe une place centrale dans la culture aborigène. Encore une fois, cette figure est une pure invention d'universitaires anglo-saxons australiens qui, inconsciemment, n'ont pu s'empêcher de projeter leur référentiel culturel en essayant de comprendre celui des aborigènes. Ainsi, avant l'arrivée des Européens, le terme de serpent arc-en-ciel n'existait pas, bien que sa figure symbolique apparaît dans de nombreux mythes. Sa capacité à donner la vie ou la mort était connue des aborigènes, mais pas au point d'en faire la divinité tutélaire de leur culture, tel un dieu unique d'une religion monothéiste. Aujourd'hui, les nouvelles générations aborigènes, dans leurs revendications culturelles, se sont réappropriées leur culture ancestrale en faisant du serpent arc-en-ciel une sorte de dieu unique que l'on retrouve sur de nombreux bibelots à l'intention des touristes. En totale opposition à la culture de leurs ancêtres, mais c'est un autre sujet. Ce qui nous intéresse, chez ce mythique serpent arc-en-ciel, encore une fois, on va garder ce terme galvaudé par facilité, c'est son rôle dans les rites de passage de l'adolescence chez les jeunes femmes et les jeunes hommes. L'adolescence, qui contraint les enfants à devenir des adultes, ne peut s'expliquer que par l'intervention du serpent arc-en-ciel qui tue les enfants pour faire advenir des adultes. C'est pourquoi en réalité la notion d'adolescence n'existe pas dans la culture aborigène. On est enfant ou on est adulte, c'est-à-dire en âge de procréer. La capacité à procréer est liée chez les aborigènes au menstru, donc à la perte de sang. Si ce processus est naturel chez les femmes, il doit être provoqué chez les hommes. C'est pourquoi seuls les jeunes hommes passent par une cérémonie d'initiation où le sang doit couler à flot, le plus souvent suite à des scarifications, en général au niveau des bras, voire, dans certains cas, de manière plus technique et douloureuse, par subincision. Nous reviendrons sur cette technique un peu après. Cette destinée différente, qui tient compte de la différence des sexes, se retrouve dans les contes racontés aux enfants pour les préparer à ce qui va advenir. Ces histoires symboliques ont la même puissance évocatrice qu'un rêve. La seule différence est qu'elles ont pour but de s'adresser à un groupe, alors que le rêve s'adresse uniquement au rêveur ou à la rêveuse qui s'en souvient. Chez les jeunes femmes, la littérature a sauvegardé le récit suivant. La nuit, une mère et ses filles vont se coucher sous leur tente. Alors qu'elles dorment, le serpent arc-en-ciel pénètre dans la tente et emporte avec lui l'aîné. Le lendemain matin, la mère découvre la disparition de sa fille, dont il ne reste qu'une petite tache de sang. On retrouve dans ce récit une référence évidente au menstru, qui marque le passage de l'enfance à l'âge adulte pour les jeunes femmes aborigènes. Ce témoignage de leur capacité nouvelle à enfanter, à donner la vie, les destine alors à se marier. Il est à noter que dans ce récit symbolique, le serpent arc-en-ciel pénètre dans la tente. Il est ici l'agent pénétrant, le principe contenu, une représentation de la puissance phallique. Maintenant, intéressons-nous aux histoires destinées aux garçons. Un récit tout aussi simple ressort du travail de collectage. Il est question d'un père accompagné de ses deux fils. Après une journée de chasse, il s'arrête près d'un trou d'eau pour y passer la nuit. Une fois endormi, le serpent arc-en-ciel émerge du trou d'eau, avale l'aîné et retourne au fond de son antre. Au réveil, il n'y a plus aucune trace de cet enfant. Dans ce récit, la référence au sang est absente, tout comme elle est absente dans la métamorphose naturelle du garçon en homme. Mais, une nouvelle fois, c'est le rôle du serpent arc-en-ciel qui nous intéresse le plus. Il est ici l'agent accueillant, le principe contenant, une représentation de la puissance matricielle. Ainsi, le serpent arc-en-ciel pourrait être qualifié de symbole de totalité, pour reprendre un vocable qui scie aux adeptes de Jung. À la fois symbole de vie et de mort, à la fois symbole phallique et matriciel. Cette capacité à fondre en lui toutes ses contradictions, à incarner la conjonction des opposés, lui confère une puissance magique inégalée dans la spiritualité des aborigènes. Les chamans sont les principaux bénéficiaires des manes du serpent arc-en-ciel. Leur rôle de guérisseur dans les sociétés aborigènes les pousse à incarner physiquement la puissance métaphysique du serpent arc-en-ciel. Pour cela, ils en passent par un rite d'initiation physique et spirituel. Ils doivent pouvoir incarner à la fois la puissance phallique et la puissance matricielle, caractéristique du serpent arc-en-ciel. Ils sont naturellement pourvus d'un pénis qui, par une analogie universelle, renvoie à la puissance phallique. En ce qui concerne la puissance matricielle, ils se trouvent fort dépourvus. Les aborigènes ont donc trouvé un subterfuge, qui peut sembler un peu barbare, la subincision. Veuillez par avance m'excuser pour les détails, mais ici la précision a de l'importance. La subincision est une technique de scarification du pénis qui consiste à inciser le pénis de manière longitudinale du prépuce à la mi-verge. Une telle incision, au cours d'un rite d'initiation, a un double effet. Immédiat, cela provoque une abondante perte de sang, censée symboliquement représenter les menstrues. À terme, la capacité de ce corps spongieux à cicatriser naturellement va former une cavité en forme de vulve. Là, je vous prie de me croire sur parole, mais les curieux ou les sceptiques pourront toujours aller se faire une idée par eux-mêmes. Ainsi, le rituel de subincision a pour but de fournir un serpent arc-en-ciel à tout aspirant chaman. C'est un passage obligé, mais pas suffisant pour accéder à cette fonction. L'impétrant doit encore apprendre la capacité à diagnostiquer, souvent grâce aux rêves des patients, bien qu'aucune méthode d'interprétation n'ait été développée. Cela relève davantage de la divination. Il doit aussi apprendre les remèdes et les rituels appropriés à chaque maladie. Enfin, il peut se présenter devant le serpent arc-en-ciel au cours d'une cérémonie d'incubation pour être définitivement initié. L'incubation consiste en une cérémonie, pratiquée toujours seule, dont le but est de rencontrer en rêve la divinité invoquée. Par chance, un rare récit d'un tel rêve a été conservé dans la littérature. Au cours de cette cérémonie, le chaman qui raconte son rêve est d'abord allé s'allonger seul, près d'un trou d'eau sacré. Lors de son sommeil, il a fait ce rêve. Je suis allongé et je sors de mon corps. Je plonge alors dans le trou d'eau et je rejoins le serpent arc-en-ciel qui sommeille au fond. Il m'accueille, puis introduit dans mon corps des cristaux de quartz. Ensuite, je retourne dans mon corps et je me réveille. L'évocation des cristaux de quartz est caractéristique de la culture aborigène. Ces cristaux seraient déposés, ou plutôt perdus, par le serpent arc-en-ciel là où il passe. Les aborigènes lui attribuent donc des vertus thérapeutiques à la fois physiques et spirituelles. Il n'est pas rare de les voir apposer de telles pierres sur les parties du corps où le patient souffre. Et si cela ne suffit pas, en ultime recours, ils peuvent user de leur propre serpent arc-en-ciel en l'apposant sur les parties du corps concernées. La vertu thérapeutique réelle d'une telle approche mériterait d'être démontrée, mais l'effet est ailleurs. Et peut-être tout aussi thérapeutique. Dans le cadre de la conférence universitaire sur la place des rêves dans la culture aborigène que j'ai essayé de vulgariser et de retranscrire à la radio, mon but était de montrer que l'intérêt millénaire pour les rêves dans notre culture européenne n'est pas unique. D'autres cultures, très éloignées géographiquement, donnent aux rêves une place centrale depuis des millénaires. Et bien que les approches soient différentes et aient évolué indépendamment les unes des autres, nous retrouvons des thèmes communs, universels. Notamment la vertu archaïque et première des rêves à communiquer avec le monde métaphysique, qui est l'une des croyances les plus anciennes de l'humanité. Et par conséquent, les rites d'incubation censés provoquer ce type de rêve. La manière de procéder est différente d'une culture à l'autre, mais le but est le même. Ce qui fait de cette forme de spiritualité une pratique universelle parmi les plus anciennes. De par ma fonction de psychothérapeute spécialisé dans l'analyse des rêves, j'ai évidemment cherché si des approches oniriques archaïques, même sommaires, pouvait présenter des fonctions psychothérapeutiques chez les aborigènes. Rien d'évident n'est ressorti pour être honnête. Tout d'abord parce que le savoir des chamans est par essence secret et repose de plus sur une transmission orale. La maigre littérature qui s'intéresse de loin à ce sujet rend compte de l'importance des rêves dans les initiations chamaniques, comme je l'ai présenté, et de l'intérêt des rêves dans le diagnostic, voire la guérison des maladies. Cela repose essentiellement sur une approche spirituelle où l'intuition tiendrait une place bien plus importante que l'interprétation des rêves. En tout cas, il n'y a pas trace de méthode d'interprétation des rêves chez les aborigènes d'Australie. On se rapproche probablement plus de ce qui se faisait dans les temples d'Asclépios que de la méthode d'interprétation des rêves à visée thérapeutique développée par Hippocrate, dont l'analyse des rêves contemporaine est une très lointaine héritière. Avant de nous quitter, je précise pour celles et ceux qui sont intéressés que je donnerai deux conférences gratuites et ouvertes à tous en janvier, le mardi 15 à 19h au Café Olive à Nîmes et le mardi 22 à 18h au Gazette Café à Montpellier. En ce qui concerne les émissions de radio, si vous avez des questions concernant les rêves ou si vous souhaitez participer à l'émission, soit en venant raconter un rêve, soit en participant à une table ronde, n'hésitez pas à nous contacter au standard de la radio au 04 67 03 28 39 ou via l'adresse mail analysederêves@radiofmplus.org. Dans tous les cas, vous pouvez toujours me contacter directement via mon site internet analysederêves.com. Et n'oubliez pas que vous pouvez réécouter cette émission dès samedi soir à 17h sur 91 FM à Montpellier ou en podcast sur radiofmplus.org à la rubrique La Voix des Songes. Nous, on se retrouve dans 2 semaines et d'ici là, faites de beaux rêves!